Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur Famille, justice, enfance. Ce soir, un nouveau direct depuis nos studios dans le Périgord. Nous allons avoir un auteur qui nous parle en distance, en remote, comme on dit aujourd'hui. Je veux parler de Marc Mangin. Marc Mangin qui a commis Au nom des pères en 2017. Qui a commis aussi effectivement un certain nombre d'ouvrages. Il a beaucoup voyagé aux Philippines, en Chine, en Corée, à Hong Kong, à Shanghai. Il a vécu 40 ans en Asie. Donc pour ceux qui nous connaissent un petit peu, vous savez que forcément ça allait m'intéresser. Monsieur Mangin, bonjour.
Bonsoir même.
Même bonsoir, vous avez raison. Alors, je suis très content de vous avoir ici parce que sur ce Au nom des pères qui va être réédité et complété prochainement, vous m'avez dit, là, on rentre dans le cœur du sujet tout de suite. On lit la présentation. Le constat s'impose. Les pères sont une espèce en voie de disparition. Décimés par les guerres de la première moitié du XXe siècle, désacralisés par le mouvement féministe des années 60 et 70, les pères seraient devenus interchangeables, réduits à une figure, une fonction, quand bien même depuis des décennies, les professionnels mettent en garde contre leur exclusion, leur disparition. La disparition des pères préfigure celle des mères. C'est tout un programme et ça rejoint aussi beaucoup de ce qu'on entend ici. Alors déjà, je vous ai un petit peu présenté, mais qui est Marc Mangin ?
Voilà, Marc Mangin, c'est un baroudeur, on va dire. C'est un journaliste, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui a cherché à comprendre pourquoi il était là, qui n'a pas eu la chance d'avoir un tuteur pour le guider dans la vie. Donc voilà, je me suis fabriqué avec ce que j'ai trouvé et je retiens de tout ça que... la vie, c'est une quête éternelle, une interrogation éternelle, que l'on soit accompagné ou que l'on soit seul. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus simple quand on est accompagné, je ne sais pas. Mais voilà, moi ma vie, ça a été de chercher.
Où on est très rarement accompagné durant les moments les très, très importants. Hein. C'est très souvent, ce qu'on a à faire, on le fait.
Non, mais je disais ça pour les premiers... Ah. Je dis ça pour les premiers ans, c'est-à-dire je pense que un enfant ne comprend pas de ne pas être accompagné. Quand j'ai fait ce bouquin, justement, les témoignages que j'ai utilisés ne sont que des témoignages d'enfants qui tous se rejoignent sur un point, c'est l'incompréhension de ne pas avoir eu à leur côté, la personne qui symbolisait quoi ? Qui symbolisait la raison pour laquelle ils étaient là, en fait. Donc les parents, quand on écoute les enfants, les parents ont cette fonction d'être, de rassurer, de guider, d'instruire, d'éduquer, qui est incontestable. Et je pense que ça, c'est un point fondamental. Et ceux qui ne l'ont pas le regrettent. Tous ceux que j'ai pu lire, tous ceux que j'ai cités, y compris Sartre avec sa grande gueule, tous disent d'une manière ou d'une autre, le gars qui aurait dû me mettre un coup de pied au cul, il n'était pas là et je le regrette.
Vous-même, vous avez souffert d'un manque de suivi parental, si je comprends bien ?
Ah ben moi, mon père est mort, j'avais 2 ans, donc...
C'est effectivement un peu tôt, oui.
Ce que l'on comprend, alors peut-être pas quand on a 2 ans, mais ce que l'on comprend très vite, c'est que l'absence de l'un signifie l'absence de l'autre. C'est-à-dire que moi, quand je regarde mon enfance, je m'aperçois que finalement, le fait de ne pas avoir eu de père a obligé ma mère à jouer les deux rôles. Et donc, elle n'était plus tout à fait une mère, mais elle n'a jamais été un père non plus. Donc, elle était quelque chose d'entre les deux qui, finalement, a privé ses enfants à la fois de la mère qu'elle était et du père qui, lui, n'était plus là. Donc, voilà, ça a été ça un peu le drame sur lequel il a fallu que je travaille et que je dépasse, c'était on se retrouve très vite tout seul. Et je ne pense pas que la recomposition d'une famille, j'en ai eu maints exemples autour de moi et même dans ma vie directement, la recomposition ne comble pas ce manque-là.
Alors, avant effectivement de rentrer vraiment dans le thème et le cœur du sujet, pour qu'on définisse bien l'origine de la parole, on va quand même dire que vous avez été correspondant de presse durant plusieurs dizaines d'années à Manille.
Tout le temps à Manille, mais j'étais correspondant de presse en Asie, notamment à Manille, et j'ai couvert l'actualité économique asiatique pendant près de 30 ans. D'accord. Pour des publications françaises.
Vous avez fait une école de journalisme ?
Oui, le CFPJ, oui.
Voilà. Non, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un dans son coin qui a écrit un ouvrage. Nous sommes en face d'un professionnel de l'information qui a fait, qui est allé voir des cultures étrangères durant plusieurs dizaines d'années et qui, à un moment donné, effectivement, a parlé et a commencé à exprimer un point de vue qui n'est pas, je pense, que autothérapique, mais qui est aussi une analyse d'environnement. Voilà, c'est ça aussi que je voulais mettre en avant.
Oui, c'est en fait ce livre. Au départ, c'est une commande, et c'est une commande qui n'est pas arrivée comme ça. C'est-à-dire que l'éditeur qui m'a proposé d'écrire ce livre l'avait refusé 10 ans plus tôt.
D'accord, en 2007.
En 2007, quand j'ai fait la proposition, enfin quand j'ai émis l'idée que ce serait intéressant de traiter ce sujet. Le sujet n'avait pas été retenu. Et 10 ans plus tard, ce qui signifie peut-être aussi que le sujet, il y avait une prise de conscience plus importante de l'importance de ce sujet, avait fait son chemin. Et donc, en 2017, moi je l'ai reproposé, mais plutôt de façon comme une blague en fait. Et j'étais très surpris qu'immédiatement l'éditeur m'ait dit « Ok, il n'y a pas de problème, on va faire ça ». C'est les presses de la Cité qui ont publié ça. C'est une grosse, c'est un des deux grands groupes d'édition en France. Et ils ont une collection d'essais et ils m'ont proposé dans ce cadre-là un travail qui soit un travail de réflexion autour de. C'est un bouquin au nom des pères. C'est vraiment un bouquin qui est une enquête journalistique sur le devenir des pères.
D'accord.
Et des mères, parce que il n'y a pas, c'est vraiment le point fondamental, un des points fondamentaux de ce bouquin, il n'y a pas de père sans mère, et l'inverse est vrai également, c'est-à-dire que c'est la mère qui fonde le père et le père qui fonde la mère. Bon, alors après, on peut toujours dire, oui, mais une femme peut être mère toute seule. Bon, ok, c'est un autre débat.
On a fait beaucoup, beaucoup d'émissions ici avec beaucoup de spécialistes et des psychologues. Un enfant est un triptyque. Il y a soi, la composante maternelle, la composante paternelle. Il a besoin de ce triptyque, surtout une fois que le lien d'attachement a été créé. Sinon, il a un manque qui se crée dans l'imaginaire, qui se fait dans l'imaginaire et qui nécessite un travail personnel assez important de compensation. Donc, c'est un manque.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
On a vu ici aussi que la place de la femme dans la société française contemporaine est très remise en question et très difficile à tenir. Celle de l'homme aussi est aujourd'hui très difficile à tenir. Est-ce que c'est intéressant parce que dans l'associatif, nous, on a commencé par défendre l'égalité homme-femme, les droits des pères au tribunal dans les séparations. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est en train de lutter contre un phénomène massif en France qui s'appelle les placements, qui concerne plusieurs centaines de milliers d'enfants, où en fait, l'État vient prendre la place non plus du père, mais de la famille dans son ensemble. Et le parent, face à l'institution, quel qu'il soit, aujourd'hui, a très peu de poids et de crédibilité. Donc on a commencé peut-être par un affaiblissement du père, mais c'est maintenant un affaiblissement du parent de manière générale.
Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et je pense que faire de cette question une question personnelle, c'est-à-dire de découvrir la question du père ou de la mère ou de la famille quand on arrive devant le juge aux affaires familiales, c'est une grave erreur. Je pense que là, on vit dans un univers, nous faisons partie d'une espèce, ça peut peut-être choquer, mais notre espèce est une espèce de prédateur. L'humain est un prédateur et il détruit.
Ah, mais nous sommes le prédateur le plus dangereux de la planète, d'ailleurs,
si on regarde. C'est le pire des prédateurs. Et donc, il a détruit tout ce qui l'entourait et il s'attaque aujourd'hui à lui-même. Et il n'y a pas de projet, il n'y a pas de complot, il n'y a pas. Mais il y a, dans l'évolution de l'humanité, ce désir irrépressible de détruire. Et donc, détruire, c'est pour détruire cette humanité, il va falloir détruire son socle, détruire ce qui le soude, et ce qui le soude, ce socle, c'est la famille. Donc, on s'est attaqué au père, à la mère, à l'enfant, de façon indistincte. On les isole, il n'y a plus de valeur humaine, je trouve, quand on regarde la façon dont les femmes, les hommes, les enfants sont traités. Vous parliez de placement. Oui, c'est tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là vont le dire. L'ASE, c'est une catastrophe monumentale. Les enfants qui sont placés sont en ressort encore plus malmenés quand ils sont rentrés dans ce système-là. Donc, je crois que le problème, il est une prise de conscience générale, c'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, parce que c'est l'autre qui nous fonde, et donc il faut trouver, ou il faut revenir, peut-être, à une forme de relation entre les êtres humains qui tiennent compte de cette obligation à vivre ensemble et à construire ensemble. Mais si cette construction n'est possible que par la destruction de l'autre, automatiquement on va se détruire soi-même.
Alors, ce qui est intéressant dans votre cas à vous, c'est que vous avez une connaissance de ce qui est multiculturel. Beaucoup d'intervenants, en fait, parfois n'ont qu'une vision de leur localisation géographique, de leur village, de leur région, de leur pays. Moi, j'aime bien avoir une vie d'ensemble, une vue d'ensemble, regarder d'ensemble. Ce que vous dites là est une description de symptômes, en fait, de l'Occident contemporain. Hein, on va dire ça très clairement, je pense que c'est Europe de l'Ouest, USA, Canada, Australie, un peu Nouvelle-Zélande. Je ne suis pas certain que la destruction de la sphère familiale ait atteint les composantes familiales d'Asie ou d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique ou d'Amérique du Sud. On est vraiment sur l'Occident et nous décrivons un mouvement qui actuellement est en Occident.
On est en avance. Moi, je dirais qu'on est en avance, mais je suis pas sûr que cette marche, ce que l'on appelle le progrès, ne touche pas dans un court terme. On le voit déjà un petit peu en Asie. On le voit un petit peu en Afrique. Il y a le fait que l'urbanisation a été un des phénomènes. Donc l'industrialisation, l'urbanisation sont des mouvements qui ont contribué à leur manière. C'est pour ça que ce n'est pas un projet politique, mais il y a eu un phénomène, des déplacements de population qui ont contribué à détruire les relations sociales, on va dire. Il y a 50 ans, les gens ne bougeaient pas trop de la région dans laquelle ils avaient grandi au départ. Mmh. Donc tout le monde se connaissait, tout le monde s'entraidait un petit peu. C'est exactement comme ce qu'on retrouve encore un peu dans la montagne. C'est-à-dire dans la montagne, tout seul, on n'a aucune chance de survivre. Eh bien, dans les régions françaises, il y a 50-60 ans, on s'aidait, on s'entraidait, on se retrouvait. Et l'urbanisation, les migrations vers les grands centres urbains ont détruit ce genre de relations. Moi, je prends souvent un exemple. Il y a 50 ans, lorsque un jeune s'installait dans la ville et qu'il avait besoin d'un petit capital pour démarrer, ce capital, il le trouvait généralement à proximité, chez les oncles, les tantes, les grands-parents, éventuellement les cousins, et puis il remboursait sans intérêt en règle générale, et à la fin, si tout s'était bien passé, on faisait cadeau du reliquat. Aujourd'hui, ça ne se pratique plus. Aujourd'hui, on va à la banque.
Oui.
Et donc, mais la banque, elle ne le fait pas gratuitement.
Ah non.
Et donc, on a déplacé cette solidarité. On a déplacé les relations sociales dans un contexte professionnel, on va dire, qui a déshumanisé la relation, qui a déshumanisé la solidarité. Et c'est aussi un phénomène que l'on retrouve, parce que moi j'ai travaillé dans le monde de l'aide au développement, les ONG, etc. Il y a une différence fantastique entre l'état d'esprit des volontaires des années 60 qui s'engageaient avec la professionnalisation que l'on connaît depuis la fin des années 70, le début des années 80, avec l'apparition des urgentistes. C'est pas pour jeter la pierre aux urgentistes, mais il y a eu un changement, voilà, de ce qui était la solidarité est devenue professionnelle. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez des gens dans la rue qui viennent quêter pour des virements mensuels pour financer, on ne sait jamais trop quoi, mais pour financer le développement. Et c'est ça qui, je pense, nous conduit petit à petit dans un monde où, bah, finalement, la fonction est du père et de la mère, elle est plus aussi essentielle que ce qu'elle était lorsque les réseaux de solidarité s'exprimaient dans une région. Et donc, bah, petit à petit, il y a une adaptation qui se fait, à l'insu peut-être même des populations, mais qui se traduit par ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un monde de fous.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
L'idée est intéressante, hein. Je me permets de faire un complément sur ça, parce qu'en même temps qu'on discute, j'ai une pensée et là qui me vient. Emmanuel Todd, dans son dernier ouvrage, nous explique bien qu'il y a plusieurs types de familles en fonction des endroits. Il explique qu'en France, nous avions la famille nucléaire égalitaire, qu'en Angleterre, on avait la famille nucléaire absolue, que le modèle germanique était encore différent, que le modèle chinois était différent, que donc les philosophies de société en Russie et autres, l'aboutissement du communisme, entre autres, s'explique justement par le concept familial et peut-être que le brassement de population a perturbé ces repères familiaux et effectivement les a compliqués et a libéré les ancrages. Deuxième pensée qui me traverse pour rebondir sur un point que vous avez évoqué, il y a tout de même un projet politique qui a pu exister en plus de l'évolution naturelle. Le wokisme, par exemple, n'a pas était bien reçu en Afrique. Donc, le wokisme repose sur un espèce de projet qui est anti-famille traditionnelle. Très clairement, l'Afrique n'a pas voulu accepter ça du tout. Et j'ai été, moi, frappé par la profondeur, par la force de la famille des Philippines, où vous avez vécu durant longtemps, la force du modèle. J'étais en admiration devant eux, d'ailleurs, quand on les fait venir ici, ils nous prennent pour des brutes, pour des sauvages, qui nous respectons très très peu les uns les autres. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ce que vous décrivez, c'est l'Occident, et que ce n'est pas forcément partout, et que c'est multifactoriel, qu'il y a certes le brassement de population, mais qu'il y a aussi des gens qui surfent au niveau politique dessus.
Oui, de toute façon, on aura toujours des personnes qui vont trouver le moyen de profiter ou de profiter de ces évolutions dans leurs intérêts. Mais je pense que le mouvement lui-même échappe échappe à un projet politique. Alors qu'après, ou qu'aujourd'hui, compte tenu de l'évolution qui est maintenant évidente avec le wokisme, que certains essayent d'influencer un peu plus le mouvement, oui, certainement, mais ce qui m'importe, c'est l'origine de tout ça. Et l'origine reste le caractère prédateur de l'homme. Et je crois que c'est ça qui me paraît être...
Là, vous êtes sur Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, nous sommes autodestructeurs, et si on nous laisse faire, on détruira tout, c'est ça, d'accord.
Oui, et donc il y a dans cette masse humaine, il y a un tout petit pourcentage qui résiste, et quand on voit la façon dont évolue le système éducatif, par exemple, on peut craindre que ce système éducatif n'aille pas dans le sens d'une prise de conscience de ce qu'est la nature humaine, mais qui encourage le glissement toujours vers l'abîme.
Mais quand on arrive de ces contrées éloignées où vous étiez et qu'on vient ici, on le constate, si vous voulez. La position de parents est affaiblie. Ce n'est pas, l'école ne travaille pas pour nous. C'est nous qui rendons des comptes à l'école. À l'hôpital, l'infirmière, elle n'est pas en train de travailler pour nous. Si jamais elle n'est pas contente ou si jamais on râle trop, elle fait un signalement puis on nous pique les enfants. Donc vraiment, si vous voulez, cette désolidarisation de famille, là, quand on a surtout vécu en Asie ou en Afrique ou en Amérique du Sud, elle est extrêmement forte ici, hein.
Oui, de toute façon, il est clair, et c'est pas nouveau, mais on a laissé l'État se substituer à la famille.
Mal, il le fait très mal d'ailleurs.
Oui, mais il le fait dans son intérêt. Son intérêt, c'est d'isoler les individus les uns des autres pour mieux les contrôler et mieux les exploiter.
Ah, donc il y a un projet politique.
Il y a une utilisation politique. Il y a une utilisation politique. Et il est clair que, politiquement, l'homme étant un prédateur, il a... Par exemple, on parle des femmes, mais je pense que l'isolement des femmes les rend beaucoup plus vulnérables. Oui. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui... Quand on regarde les couples, enfin les familles monoparentales, ce qu'on appelle familles monoparentales, ce sont des femmes qui sont isolées et qui sont.
Je ne pense pas qu'elles soient heureuses d'ailleurs. Je ne pense pas qu'elles soient heureuses du tout.
La majorité d'entre elles ne tiennent pas dans ce. On ne tient pas déjà à deux, c'est pas facile, mais alors tout seul, c'est. Et il y a cette. C'est. Pour contrôler les individus, il faut les fragiliser. Et le meilleur moyen de les fragiliser, c'est de les isoler. Tant qu'ils sont regroupés, ils sont forts.
Et nous, ce qu'on commence à voir au niveau associatif et des groupes d'entraide et autres, c'est que les organismes d'aide qui sont censés aider les populations, notamment aider les mères ou les enfants et autres, se comportent de plus en plus en prédateurs.
Oui, et ça ne va. À partir du moment où la bride est lâchée, évidemment, ça va aller en s'accroissant. Et c'est là où est le risque. Quand on parle de crise civilisationnelle, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où il n'y a plus de contrôle. Et comme finalement, c'est contraire à la nature qui nous ferait progresser, forcément, la société va s'effondrer. En allant dans ce sens-là, forcément, il n'y a pas d'alternative à ça.
Bon, c'est pas super optimiste, malheureusement, vous n'êtes pas le seul à le dire.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Là, cet ouvrage que vous avez écrit en 2017, en fait, est-ce que votre point de vue a évolué depuis, ou est-ce que tout ce qui est dedans, ou est-ce que ça s'est empiré, en fait, si vous deviez le compléter, je sais qu'il y a une édition complétée qui sortira en fin d'année, vous iriez dans quelle direction ?
Dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans le bon sens pour D'accord. moi. Ce que l'on appelle le progrès, c'est une avancée vers un gouffre. Et c'est ça qui est... ce que l'on appelle un progrès, c'est plutôt une régression. On le voit à tous les niveaux. Plus on fait de lois, moins il y a de justice. Plus on fait de réformes de l'éducation nationale, plus les gamins sont stupides. Plus on paye d'impôts, moins on a de services. Et tout va dans le même sens. Donc, il n'y a pas de raison. Quand j'ai écrit ce bouquin, par exemple, je termine sur les essais cliniques qui sont faits pour fabriquer un homme, un clone. Okay. Mm-hmm. Et à l'époque,
d'ailleurs,
les lois...
ce sont des progrès technologiques, scientifiques qui sont interdits en Occident, mais qui ont libre cours en Chine, où on peut cloner un animal familier, et eux sont beaucoup plus avancés que nous, et eux, ils y vont dans cette direction. Hein.
Mais les humains, il y a une législation qui pose un certain nombre de limites. Mais on voit bien que
en
ces
Occident.
Limites, elles reculent.
En Occident, il y a des limites. En Occident, mais la Chine n'a pas signé et la Chine a fait ce qu'elle veut. Enfin, j'ai d'autres quelques pays comme
mais,
ça.
Mais,
si
mais
vous
même
voulez,
en Occident, mais même en Occident, ces limites, elles sont repoussées timidement comme ça. On le voit pas. C'est insensible au début, mais on va finir par le faire. Voilà. Et moi, quand on me pose cette question, mais alors comment ça évolue? Ben, ça, ce que vous dites, oui, aujourd'hui, un parent se comporte, n'est pas conforme à ce que la société attend de lui. On va faire un signalement, on va lui retirer le gamin et on va placer le gamin dans une famille. Qui est payé pour ça, donc
ou un foyer, un foyer dans un état lamentable.
Qui fait du chiffre.
Mais oui.
Donc voilà, la solution, c'est pas un retour au 19e siècle, c'est clair. Mais par exemple, quand on parle d'écologie, c'est les circuits courts. Ben, les circuits courts, ça va à tous les niveaux, y compris celui de la famille.
Là, en quelques mots, à votre avis, on va jouer un peu à Madame Irma. Là, on va vers les couveuses à bébés, les machines à faire les bébés sans parents, ou on va vers une prise de conscience et un retour aux traditions?
Non, c'est les enfants sans parents. C'est déjà un peu le cas. C'est déjà un peu le cas. Il faut pas se le cacher. Quiconque veut faire un bébé, fait un bébé. Un couple d'hommes, un couple de femmes, une femme seule, un homme seul.
Non, la PMA en France, c'est que deux femmes. La filiation paternelle est quasiment abandonnée. On est à 17 enfants sur 1000, je crois. Non, 17, je sais plus, enfin, j'avais dit le pourcentage à un certain donné, de création de femmes entre femmes. Mais entre hommes, c'est interdit.
Oui, c'est interdit. Mais on peut aller aux États-Unis, on peut aller n'importe où. Et ceux qui veulent avoir des gamins, l'enfant est un objet, et Sartre avait exactement la bonne définition. L'enfant est un monstre est un monstre que les adultes fabriquent avec leurs regrets.
Bon, Marc Mangin, on vous trouve comment?
Alors, on me trouve
sur Amazon.
Oui, on me trouve.
Il y a une bonne quinzaine d'ouvrages sur Amazon.
En librairie.
Oui.
En librairie. Il y a une petite structure d'édition qui s'appelle Œil pour Œil, qui s'est créée récemment et qui va publier les écrits sur le père. Voilà.
Bon, eh bien, on en reparlera. C'est une sortie en décembre de fin d'année, je crois. Ce sera un entretien dans un an.
Décembre 2025, oui.
Marc Mangin, merci beaucoup. Bonne soirée à vous et au revoir tout le monde. À la semaine
prochaine. Merci de votre invitation.
Au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.